autour de la question, tout à l'heure à 14h10 TU, sur RFI.
11h30 en temps universel, il est 13h30 à Paris et à Bruxelles.
RFI Midi.
Dans une demi-heure, le journal avec vous, Olivier Sherman.
Bonjour. Avec un point sur l'annonce spectaculaire de Donald Trump, le président américain assure que des discussions avec l'Iran sur le nucléaire se dérouleront samedi prochain à Oman. Téhéran confirme qu'il s'agira de discussions directes, alors que les deux pays n'ont plus de relations diplomatiques depuis 45 ans.
Vous nous parlerez aussi de la visite d'Emmanuel Macron en Égypte.
Le président français est arrivé ce matin à Al-Rich, avant-poste égyptien du soutien humanitaire à Gaza. Il s'agit d'une rare visite d'un dirigeant européen aux confins de la bande de Gaza. Le président français appelle à une reprise de l'aide humanitaire à l'enclave palestinienne bloquée par Israël.
Les opérations de recherche sont terminées en Birmanie, 10 jours maintenant après le tremblement de terre.
Plus de 3500 morts à Mandalay. Sous une chaleur étouffante, les habitants n'abandonnent pas et déblaient pour dégager des corps sans aucune aide humanitaire, nous dira Esther Lebleu sur place. Enfin, Guillaume Thibault du Cap Vert nous fera découvrir l'Atlantic Music Expo. Praia a vibré toute la semaine au son des musiques du monde pour la 11e édition de ce grand marché de la musique.
A tout à l'heure.
RFI Midi, l'Europe à midi.
Pour le moment, on va revenir sur le chaos provoqué par les droits de douane de Donald Trump imposés à quasiment tous les pays du monde. Ils entreront en vigueur demain pour l'Union européenne, 20% pour tous les produits exportés aux États-Unis. Et face à cet acte jugé très hostile, Justine Fontaine, les Européens balancent entre représailles et négociations, entre des mesures déjà approuvées par les 27 et la perspective de discussion. La présidente de la Commission européenne a même mis une proposition sur la table hier.
Oui, celle de zéro droit de douane sur les produits industriels américains qui entrent en Europe, si Washington fait la même chose. Ursula von der Leyen, hier à Bruxelles.
Nous sommes prêts à négocier avec les États-Unis. Nous avons proposé des droits de douane nuls pour les biens industriels, comme nous l'avons fait avec succès avec de nombreux autres partenaires commerciaux, car l'Europe est toujours prête pour un bon accord.
Une idée qui rappelle celle d'Elon Musk, le patron de Tesla, aussi membre de l'équipe de Donald Trump, lui a proposé le week-end dernier une zone de libre-échange entre l'Europe et l'Amérique du Nord.
Mais ces deux idées ont été balayées par Donald Trump hier soir depuis le bureau ovale.
Ce n'est pas juste. On a un déficit de 350 milliards de dollars avec l'Union européenne. Et l'un des moyens de le faire disparaître facilement et rapidement, c'est qu'ils vont devoir nous acheter notre énergie parce qu'ils en ont besoin. Nous pouvons faire disparaître 350 milliards de dollars en une semaine.
Alors, le président exagère le déficit commercial des États-Unis vis-à-vis de l'Europe. C'est plutôt 230 milliards et pas 350. Et puis, même si les Européens lui achetaient plus de pétrole et de gaz, il ne promet pas pour autant de lever ses droits de douane.
L'Union européenne qui négocie donc d'un côté et d'un autre va tout de même riposter.
Oui, demain, les pays membres doivent adopter des droits de douane de 10 à 25% sur une série de produits américains, soja, amandes, cosmétiques ou encore des rétroviseurs. Entrée en vigueur prévue le 16 mai ou le 1er décembre selon les cas. Cela vise un peu plus de 5% des exportations états-uniennes vers l'Union européenne. Des représailles limitées donc, qui répondent seulement maintenant aux droits de douane américains sur l'acier et l'aluminium annoncés en février. Une deuxième série de mesures est attendue face aux droits de douane de 20% qu'on évoquait à l'instant. Mais il n'y a pas de calendrier pour le moment.
Voilà pour la réponse de Bruxelles à Washington. Mais ce qui inquiète beaucoup, beaucoup d'industriels européens, c'est la Chine.
Ursula von der Leyen a parlé ce matin avec le Premier ministre chinois Li Qiang. Elle l'a appelé à éviter l'escalade. Une escalade qui, de fait, est déjà là face aux droits de douane américains de 54% en tout contre les produits chinois dès demain. Pékin a répondu, ce sera 34% sur les produits américains à partir d'après-demain. De quoi agacer Washington qui veut doubler la mise et l'Europe craint d'être bientôt inondé de produits chinois. Pékin aura en effet besoin de nouveaux débouchés. Là-dessus, la réponse de Bruxelles se fait encore attendre.
Justine Fontaine, l'incertitude générée par la politique de Donald Trump s'étend bien au-delà des questions commerciales et boursières. Les coupes budgétaires à tout va ont aussi des conséquences jusqu'en Europe, où on craint pour la liberté d'information. Il y a quelques jours, Donald Trump est allé contre une décision de justice concernant Radio Free Europe, radio fondée par les États-Unis pendant la guerre froide afin de diffuser des informations au sein du bloc communiste. Aujourd'hui, cette radio, elle émet en plusieurs langues dans 23 pays du monde, dans lesquels, souvent, la liberté de la presse n'est pas respectée. Mais Donald Trump ne veut plus financer Radio Free Europe. Et malgré une ordonnance de justice estimant qu'il ne pouvait pas décider seul de suspendre un média créé par le Congrès, eh bien l'argent n'arrive plus et déjà on déplore des licenciements. Alexis Rosenzweig, ce média basé à Prague est très mobilisé, il essaie de faire face, mais pour l'instant ça ne suffit pas.
Говорит Радио Свобода.
Le satellite permettant la transmission de la chaîne de télévision en langue russe de Radio Free Europe en Russie, Current Time, a été éteint jeudi dernier par Washington. Propagandiste en chef du Kremlin, Margarita Simonyan, directrice de Russia Today, n'a pas caché sa joie à l'annonce de la fin du financement de Radio Free Europe, parlant, je cite, d'un jour de fête pour la Russie.
Radio Свобода et Голос Америки.
À Prague, l'arrêt des subventions, même s'il est contesté en justice, a pour conséquence le chômage technique d'une partie du personnel. Le directeur du groupe, Stephen Capus, refuse de baisser les bras.
Radio Free Europe, Radio Liberty a une mission très particulière. Nous opérons dans des régions où la liberté de la presse n'est plus autorisée ou bien est fortement restreinte. Grâce à notre travail, nous sommes devenus une bouée de sauvetage pour les membres de notre audience qui sont en quête d'informations fiables et précises sur ce qui se passe dans leur propre pays et dans le monde.
Le média américain diffuse dans une trentaine de langues et dans de nombreux pays où son nom, décliné dans l'idiome local, est souvent très connu, comme peut l'être en Iran, Radio Farda, le service en persan de Radio Free Europe.
Il est crucial que nous poursuivions cette mission, car nous tenons les autocrates et tous ceux qui souhaitent faire taire la presse pour responsables de leurs actes. C'est précisément pour cela qu'ils déploient tant d'efforts pour essayer de nous faire taire. Et cela signifie aussi que notre action contribue à rendre le monde plus sûr. Grâce à nos reportages, les gens sont informés sur ce qui se passe à l'intérieur de la Russie, de l'Iran, ou encore sur l'influence néfaste croissante de la Chine dans toute la région. Cette influence ne se limite pas seulement aux zones que nous couvrons, nous en voyons les effets se propager bien au-delà.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Le média américain, qui a renouvelé sa rédaction en hongrois et qui possède encore des services roumains et bulgares, dérange dans de nombreux pays. Son antenne kirghize Radio Azatik a été interdite par Bishkek en 2023. La documentariste tchèque Veronika Janatkova vient de produire un film sur le travail d'un des journalistes de cette antenne.
C'est absolument essentiel. Au Kirghizistan, cette affaire de corruption qui est au cœur du documentaire traîne depuis 2019. Mais une enquête journalistique de ce type n'aurait probablement pas été possible là-bas. En 2023, Radio Free Europe, Radio Azatik, la section kirghize, a déjà été interdite dans le pays. Le fait qu'il ait existé une institution soutenant ce type de recherche et de journalisme en faisait le seul espace où de telles informations pouvaient être publiées.
Le chef de la diplomatie tchèque, Jan Lipavský, a tenté de motiver ses homologues européens à sauver cette radio basée à Prague depuis 30 ans, mais rien n'est encore acquis pour l'heure, surtout que le budget annuel représentait en 2024 environ 142 millions de dollars.
Radio Free Europe est une institution, c'est toute une organisation avec un réseau de collaborateurs, c'est toute une rédaction. Si elle venait à disparaître, il serait extrêmement difficile de la reconstruire. C'est pourquoi il est pertinent de discuter des mesures à prendre pour préserver cette institution, au cas où les États-Unis décideraient réellement de couper leur financement.
Podcasty Radio Свобода.
Американского президента Дональда Трампа и украинского президента Владимира Зеленского.
L'audience de Radio Free Europe est estimée à 50 millions de personnes par semaine, avec un fort impact également sur les réseaux sociaux. Preuve, s'il en fallait, que ce média américain, très important pendant la guerre froide, conserve un certain prestige et une certaine raison d'être encore aujourd'hui.
Un reportage d'Alexis Rosenzweig à retrouver ce soir dans l'émission Accent d'Europe.
Anne Contner.
Un coup d'œil à la presse européenne. The Guardian, qui alerte régulièrement sur l'état catastrophique du système de santé publique, nous apprend aujourd'hui en exclusivité que les coupes budgétaires voulues par le gouvernement pourraient entraîner la suppression de 100 000 emplois dans les hôpitaux. Les dirigeants du NHS, le système de santé, demandent au Trésor de créer un fonds national de licenciement afin de payer la facture de ces suppressions d'emplois, car les établissements sont déjà trop à court d'argent pour le faire. El País, de son côté, se fait l'écho de ce qu'il considère comme l'une des questions phares de la politique mondiale, y compris en Espagne. Pourquoi l'extrême droite séduit-elle tant de jeunes hommes ? Un rapport du European Policy Center apporte une partie de la réponse. Le moteur de Vox et d'autres partis d'extrême droite est le déclin éducatif et économique des hommes de moins de 30 ans, surtout s'il prend la forme d'un retard par rapport aux femmes ou d'une menace perçue d'être dépassée. Et puis la presse espagnole, elle fait aussi une large place au foot. Aujourd'hui, à quelques heures des quarts de finale aller de la Ligue des Champions, le Real de Madrid se déplacera ce soir à Arsenal, club anglais entraîné par un Espagnol, Mikel Arteta. Et c'est bien sur lui que repose la plupart des attentes et de la pression, selon les journaux espagnols.
RFI Midi, Prague, 99.3 FM.
Lui-même a reconnu que Madrid avait établi de nouvelles normes dans le monde du football, mais nous devons créer les nôtres, dit l'entraîneur d'Arsenal. Le club anglais a moins d'expérience de ce genre de rendez-vous, moins de succès à son actif, mais aborde tout de même le match de ce soir avec ambition, Cédric De Oliveira.
C'est un poncif dans le football. Plus le match est important, plus les joueurs et les entraîneurs tentent de se servir de leurs supporters. Alors que le Real se dresse sur sa route, Mikel Arteta, le boss d'Arsenal, ne déroge pas à la règle. Il espère beaucoup du public de l'Emirates.
11 joueurs et 60 000 personnes. Il faut être vraiment hyper convaincu que nous sommes prêts à gagner et à battre ce Real. C'est l'état d'esprit que je veux voir. Et continuer à faire ce qu'on fait depuis le début de saison, se baser sur notre cohésion, c'est notre force.
Il en faudra, car Arsenal est une équipe séduisante, mais qui gagne rarement. Aucun titre majeur depuis plus de 20 ans. Une finale de Ligue des Champions perdue en 2006. En face, c'est tout le contraire. Le Real a remporté 15 fois le trophée, dont 5 en 10 ans. Mais l'ailier anglais Bukayo Saka reste convaincu que cette soirée peut bouleverser l'ordre établi.
Je n'ai pas vraiment de doute au sujet des supporters. Ils seront présents aussi et ils vont contribuer à créer la plus belle soirée que l'Emirates ait connue. On sait qu'en face, c'est le Real. Il faut respecter le club et son histoire, mais tout peut arriver.
D'autant que Kylian Mbappé et ses partenaires ne traversent pas la meilleure période de leur saison. En s'imposant devant son public, Arsenal prendrait en tout cas une belle option sur la qualification à une semaine du match retour à Madrid.
Arsenal, Real Madrid, le match débute ce soir à 19h, temps universel. L'autre rencontre de la soirée opposera le Bayern Munich à l'Inter Milan.
RFI Midi, un monde de tech.
On va prendre un peu de hauteur, Dominique Dezonnet. Vous nous ça donnez des
bien.
Nouvelles. Oui. Ça nous aère un petit peu. Vous allez nous donner des nouvelles du premier engin européen conçu pour aller sur Mars, le rover Rosalind Franklin. Il est censé décoller dans 3 ans pour se poser sur la planète rouge, 2 années plus tard, en 2030.
Oui, l'agence spatiale européenne tente ainsi de rattraper son retard dans la course à la planète Mars après l'échec de l'atterrisseur Schiaparelli en 2016. Un revers cuisant qui nous prouve une fois de plus qu'avant de pouvoir crapahuter sur le sol martien, encore faut-il pouvoir s'y poser. Et il faut dire que ce type d'atterrissage est hors norme et il donne vraiment des sueurs froides aux ingénieurs en astronautique du monde entier, le qualifiant d'ailleurs de 7 minutes de terreur. L'engin spatial doit passer d'une vitesse de 20 000 km/h à l'arrêt complet à la surface en traversant une atmosphère martienne certes très peu dense mais particulièrement turbulente. Alors pour accélérer son programme d'exploration de la planète rouge dénommée ExoMars, l'ESA a officiellement sélectionné et financé 2 industriels majeurs du spatial européen, Airbus UK et l'italien Thales Alenia Space. Ils sont chargés de concevoir les systèmes mécaniques, thermiques et de propulsion du robot ainsi que la plateforme d'atterrissage qui déposera donc en douceur le rover sur le sol martien.
Sa mission principale, ce sera ensuite la recherche de biomolécules ou de biosignatures laissées par une éventuelle trace de vie passée.
Effectivement, c'est la grande question. L'engin est conçu pour découvrir ces signes moléculaires qui, selon les chercheurs, seraient apparus peut-être il y a 4 milliards d'années quand les conditions environnementales de Mars étaient comparables à celles de sa grande sœur, la planète Terre, une vie enfouie dans les sols qui a peut-être survécu aux radiations et aux milieux hostiles qui caractérisent aujourd'hui la planète rouge. Contrairement aux rovers précédents qui se contentaient d'analyser en surface ou sur une très faible profondeur le sol martien, le robot européen, lui, embarque un outil capable de forer jusqu'à 2 mètres. L'engin intègre aussi un équipement scientifique de pointe, notamment un système de caméra panoramique PanCam, développé par des chercheurs britanniques et européens, ainsi qu'un spectromètre infrarouge conçu par une université galloise, ce qui aidera donc à identifier les terrains et les roches les plus prometteurs à analyser.
Le tout dans des conditions hostiles, comme vous le disiez, et pour survivre sur Mars, le robot se chauffe au nucléaire.
Oui, l'appareil qui devra résister aux tempêtes de sable, aux radiations bombardant constamment la planète, devra aussi survivre aux variations extrêmes des températures. Elles atteignent par exemple jusqu'à 20 degrés centigrades en plein jour et peuvent s'effondrer à moins 143 degrés centigrades la nuit. Les radioéléments qui réchauffent l'engin sont à base d'isotopes radioactifs et la chaleur de leur désintégration est convertie aussi en courant pour alimenter ses équipements scientifiques et les moteurs électriques. Toutefois, hormis ces systèmes intégrés de très très haute ingénierie, ce robot n'a vraiment rien d'une Formule 1. Il se déplace à la vitesse d'un escargot en parcourant prudemment jusqu'à 70 mètres par jour martien. Le rover européen doit s'envoler en 2028 à bord d'un lanceur américain profitant d'une fenêtre de tir favorable quand notre petite voisine martienne orbitera dans sa course autour du Soleil au plus proche de la Terre.
Merci Dominique Dezonnet, à demain.
RFI Midi. Barcelone, 105.3 FM.
Ce 8 avril est une journée particulière pour le peuple gitan. C'est la journée mondiale du peuple gitan pour marquer la création d'un drapeau, d'un hymne pour cette communauté qui est très importante en Espagne par exemple. Elle est venue d'Égypte il y a 600 ans, mais aujourd'hui encore, elle peine à effacer les siècles de stigmatisation et les difficultés d'intégration. Reportage à Madrid de notre correspondant François Musso.
Ces jours historiques pour la communauté gitane dans la prestigieuse Université de la Autonoma dans le nord de Madrid, on donne le coup d'envoi à un programme inédit. Près de 300 professeurs non-gitans vont se former pour connaître la culture et l'histoire de cette population souvent invisible, discriminée, en échec scolaire. La cérémonie commence par l'hymne gitan, le Délé Délé, que chante une artiste du cru. Diego Fernandez est le président de l'Institut de la Culture Gitane, une fondation publique. Il est l'une des grandes personnalités de cette communauté d'environ 1 million d'Espagnols.
Les peuples discriminés, ceux qui dépassent le destin auquel ils étaient condamnés, c'est-à-dire l'extermination, sont mis en hibernation dans l'histoire. Vous avez résisté, mais nous vous hibernons. Et donc, comme nous sommes placés en hibernation, nous vivons de l'autre côté du miroir.
Ce que souhaitent les responsables gitans désormais, c'est une reconnaissance politique, une institution qui dépendrait du gouvernement central avec du personnel, un budget, des compétences sur tout le territoire. Ils réclament aussi une loi intégrale pour, disent-ils, obtenir du muscle juridique, un peu sur le mode du collectif LGBT. Or, hormis le flamenco, les gitans ne tiennent jamais le haut du pavé. Pas un seul juge gitan, pas un riche entrepreneur gitan, pas un seul présentateur de télévision gitan. Personne dans le monde politique non plus, ou si peu. Samuel Escudero, 25 ans, est une exception. Il est député du Parlement régional de Madrid. Depuis tout jeune, il a connu la discrimination.
Moi, je suis un jeune d'un quartier qui s'appelle Vallecas et qui est réputé pour sa lutte des classes ouvrières. Si depuis tout petit tu as connu ce genre d'injustice, cela te rend empathique. Quand depuis tout petit les autres enfants refusent de jouer au ballon avec toi, quand un professeur refuse de prendre au sérieux tes écrits et ne regarde que tes dessins, quand des agents de sécurité poursuivent ta famille dans les supermarchés.
Le poids de l'histoire, disent-ils tous, 600 ans de présence en Espagne après être arrivés d'Égypte, une des plus importantes communautés gitanes du monde. Mais c'est ce passé si dur qui fait qu'aujourd'hui le peuple gitan d'Espagne en a gardé des cicatrices, la sensation d'être constamment la dernière roue du carrosse. Amara Montoya est une figure de la communauté, présidente de l'Association des femmes gitanes, qui doit aussi lutter contre le fait que beaucoup se marient dès l'adolescence et interrompent donc leurs études.
Tout cela est dû à l'invisibilisation de notre civilisation, de notre peuple. Imaginez que jusqu'à il y a 2 ans, il n'y avait pas de gitans au Parlement, ni national, ni régional.
On le voit, être gitan, réclamer les droits d'un peuple à être considéré, c'est une forme de résistance. La langue calo, un dialecte entre le romani et l'espagnol, subsiste, mais n'est pas beaucoup parlée. Et Adolfo Heredia, un jeune étudiant en droit, une autre exception, en est très bien conscient.
On a beaucoup, beaucoup perdu. Une grande partie de notre identité nous a été enlevée. Ce qui nous reste, c'est ce sentiment, cet orgueil identitaire.
On l'imagine, ce n'est pas facile et les chiffres parlent d'eux-mêmes, surtout pour ce qui concerne l'origine de tout, l'école. 4% des Espagnols ne terminent pas l'enseignement secondaire, mais dans le cas des Gitans, le pourcentage s'élève à 63%. Compliqué dans ces conditions de s'intégrer, et tant qu'on ne mettra pas de l'argent dans les ghettos gitans, tant qu'on n'introduira pas des quotas pour eux, on ne changera pas la situation. Sarah Jiménez, directrice de la fondation Secrétariat Gitano, en est convaincue.
Le temps est venu, je crois, de la maturité. Ce peuple, il faut lui reconnaître des normes pour aborder le problème des bidonvilles, des inégalités dans le secteur du logement ou de l'emploi.
Ce soir-là, elle s'est déplacée dans un grand centre culturel au cœur de Madrid, le Caixa Forum, pour tenter de convaincre un vaste auditorium de ses nécessités. Sur un large écran, elle passe une vidéo où des enfants gitans consultent le dictionnaire précisément au mot « gitan ».
Gitan, personne rusée qui recourt à l'astuce et au mensonge, tente de tromper des interlocuteurs.
Dans cet événement culturel et de revendication, Pablo Rubén Maldonado, pianiste flamenco, lui aussi est venu pour partager son art. Grenade, grenade, chante-t-il, je te vois entière de l'Albacine à l'Alhambra, gitane. Père menuisier, petit-fils d'artiste analphabète, il raconte qu'il a eu la chance, lui, d'avoir été mis à l'école par une grande tante qui avait appris à écrire par sa seule volonté.
Reportage de notre correspondant à Madrid, François Musso. Vous pouvez le réécouter quand vous le voulez sur l'appli RFI Pure Radio.
RFI Midi.
RFI à Cluj, 94 FM.
Notre rencontre avec une personnalité du monde de la culture, aujourd'hui la réalisatrice Baya Kasmi, qui raconte dans son nouveau film la vie d'une famille atypique, nomade, totalement en marge. Cette famille, elle se retrouve le temps d'un été auprès d'un père et sa fille adolescente. C'est poétique, c'est grave parfois, et cela amène à s'interroger sur le ou les modèles de famille qui existent. Entretien au micro de Sophie Torlotin.
Baya Kasmi, bonjour.
Bonjour.
Votre nouveau long-métrage Mikado part d'une situation assez insolite. Un couple qui vit sur les routes avec ses deux enfants, non déclarés à l'état civil, jusqu'à ce qu'une panne mécanique les oblige à vivre temporairement dans le jardin d'un père qui élève seul sa fille adolescente. D'où vous est venue cette idée d'une famille en marge ?
J'avais envie de faire un film sur l'enfance. La famille, c'est ce dont on a besoin pour démarrer la vie. C'est des choses magnifiques. De l'amour le plus puissant qui existe, et puis en même temps des poisons et des prisons aussi. Je suis partie de cette idée que la condition de l'enfance, c'était une condition quand même d'enfermement, de toutes les manières, mais c'était vraiment de se mettre à la place de cette adolescence-là et essayer de filmer le moment où un adolescent peut, grâce à une rencontre souvent, arrive à regarder ses parents non plus comme des dieux qui savent tout sur Terre et tout d'un coup remet en cause leur choix et il peut s'inventer lui-même.
C'est difficile le collège.
Tu veux y aller ?
Il est très gentil et très intelligent, je trouve.
Les profs, quoi.
Parce qu'ici, en l'occurrence, cette vie de bohème sans cadre, sans école, ça pourrait sembler très attirant. Mais la fille adolescente de ce couple, c'est Nuage, en fait, elle a envie de se socialiser et c'est normal, elle est adolescente. Donc elle a envie d'aller à l'école.
Exactement, c'était aussi le pari du film, de filmer l'histoire de Nuage qui, elle, rêve de ce cadre qui fatigue tout le monde. Et c'est vrai que cette famille, de toute manière, elle a une histoire très particulière qu'on comprend au cours du film.
Et les deux parents sont dévoilés, mais ils ont eu une enfance, eux, très compliquée.
Exactement, et ils fuient la société parce qu'ils ont vraiment peur qu'on les sépare. Donc il y a une urgence, il y a une cavale en quelque sorte, qui est aussi le récit du film. Même si je ne suis pas forcément en accord avec ce choix-là de vivre en autarcie, de ne pas scolariser les enfants, on en vit aussi leur vie. Ils font quelque chose qu'on rêve aussi de faire parfois en famille, c'est-à-dire de prendre des chemins de traverse. Et eux, ils ont créé une utopie.
Il se passe quoi si quelqu'un déclare pas son gosse ?
Mikado, Baya Kasmi, c'est le surnom du père bohème joué par Félix Moati. C'est aussi évidemment un jeu d'adresse, c'est la métaphore de la famille.
Oui, j'aimais bien cette métaphore. Après, le Mikado, c'est un jeu qui nous évoque tous l'enfance. C'est bâtonné, c'est sûr que c'est un jeu d'équilibre et c'est un jeu où, effectivement, comme dans les familles, tout est enchevêtré. Et quand on enlève un petit bout de bois comme ça, on risque de faire tout écrouler l'équilibre et il faut l'enlever très très lentement.
Tu crois que je vois pas ce que t'es en train de faire ?
Je vous aime bien, c'est tout.
Tellement que tu veux me voler ma fille ?
assez de problèmes comme ça, moi, dans ma vie, pour que vous veniez m'en rajouter.
Vous racontez aussi, Baya Kasmi, la confrontation de deux familles, en fait, de deux modèles. L'un est quand même plus classique, hein, puis il est incarné par Vincent, c'est Ramzi Bedia. Et en même temps, il y a pas de jugement de part et d'autre.
Non, j'espère pas. Moi, en tout cas, je juge aucune de ces familles et il n'y a pas de bon modèle familial. Elles se jugent pas, mais en même temps, ils peuvent être un danger les uns pour les autres. Et il y a aussi une vraie envie. La famille de Vincent, ils sont bourgeois, ils sont cultivés. Ils créent du désir et de la jalousie chez Mikado. Mais Vincent aussi, quand il regarde cette famille qui vit de façon tellement resserrée, bah, il a une tristesse parce que c'est aussi quelqu'un qui a du mal à communiquer avec sa fille.
Baya Kasmi, merci.
Merci beaucoup.
Baya Kasmi, réalisatrice du film Mikado, elle était au micro de Sophie Torlotin. Dans quelques minutes, un nouveau journal sur RFI, puis nous parlerons avec notre invité de cette annonce de Donald Trump, annonce de discussion directe avec l'Iran pour parler du programme nucléaire de Téhéran. Pour l'instant, l'Iran ne confirme que des discussions indirectes. Notre invité pour en parler tout à l'heure est le chercheur Thierry Coville. Et puis, à 12h30, en temps universel, l'actualité africaine, comme chaque jour, avec vous, Nicolas Sûr, bonjour.
Bonjour, Anne Cantner.
Et à la une aujourd'hui?
En République démocratique du Congo, le président Tshisekedi annonce la suspension immédiate de tous les contrats de lobbying avec des cabinets américains. Objectif, favoriser les relations directes avec l'administration Trump et mettre un terme au trop-plein d'intermédiaires.
À tout à l'heure, Nicolas. Nous, on va écouter un peu de musique pour aller jusqu'au prochain journal avec le dernier titre du trio français Roseau. Coup de cœur des programmateurs musicaux de RFI. Comme souvent, les musiciens ont fait venir un artiste invité. Cette fois, c'est l'artiste ghanéen basé à Londres, Ghetto Boy, qui se joint à eux pour ce titre, My People.
Yeah, excuse me, Mr. Officer. Yeah, me not have time. What you see, I see not so. Yeah, what a good life. Me not see no proper love. Yeah, in a long time. If you want the power, show your face on a good night. Yeah, all of my people working out to see the holidays. And the struggle, struggle, I just to pray for better days. If the money no go come, we just to find a better way, better way. So no don't look like say we done the crazy. See all of my people, see all of my people. Say we do no evil, stay away from evil. Why I said? When you rise, you just the pepper, pepper them. No go they let them talk, just the pepper, pepper them. Them I up, no go they bother you. Just they stop on them, and the rest of them go they learn from you. All of my people working out to see the holidays. And the struggle, struggle hard, just to pray for better days. If the money no go come, we just to find a better way, better way. So no don't look like say we done the grace. Say all of my people, say all of my people. Say we do no evil, stay away from evil. My people, say all of my people. Say we do no evil, stay away from evil. Excuse me, Mr. Officer, yeah, me not have time. What you see, I see not so, yeah, what a good life. Me not see no proper love, yeah, in a long time. If you want the power, show your face on a good night, yeah. All of my people working out to see the holidays. And the struggle, struggle hard, just to pray for better days. If the money no go come, we just to find a better way, better way. So no don't look like say we done the grace.
My People de Roseau et Ghetto Boy, c'est à écouter en ce moment dans la playlist RFI. Vous restez avec nous, on se retrouve dans moins d'une minute maintenant pour le journal.
Tout à l'heure sur RFI, de vive voix.
Pascal Paradou.
La Comédie Française est sa maison. Depuis 20 ans, il y joue, met en scène, pensionnaire puis sociétaire, Clément Hervieux-Léger sera le futur administrateur pour diriger ce théâtre vénérable. En ce moment, il est à l'affiche de La Cerisée de Tchekhov, l'un des plus beaux textes du répertoire.
Écoutez De Vive Voix avec Pascal Paradou, du lundi au jeudi à 13h30 TU sur RFI.